Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va discuter ensemble des solutions que les restaurants peuvent mettre en place pour devenir performants en 2023. Alors, on l'a vu, il y a énormément de contraintes nouvelles qui sont greffées. Les hausses des matières premières, la hausse de la masse salariale, la hausse des coûts d'énergie. C'est ce qui a conduit certains établissements, on l'a vu ces derniers mois, à utiliser des solutions temporaires. Par exemple, l'augmentation des prix sans augmentation de la qualité. Pour certains établissements, ils ont diminué le chauffage pour réduire les coûts d'énergie, ce qui fait que l'expérience client s'est dégradée. Bref, il y a plein de petites solutions qui ont été utilisées, mais qui ne sont pas forcément pérennes. Et j'aimerais que vous apportiez votre regard d'expert tous les deux sur les solutions que vous pensez qu'il est utile de faire. Quelles stratégies peuvent mettre en place les restaurateurs d'aujourd'hui pour faire face à toutes ces difficultés? Voilà, je vous remercie d'avance de vos témoignages.
Merci pour cette présentation exhaustive. Moi, je pense qu'on va déjà distinguer deux choses. On va distinguer les restaurateurs en devenir, c'est-à-dire ceux qui cherchent à s'installer quelque part, et puis ceux qui sont déjà installés. Pour les restaurateurs qui souhaitent s'installer quelque part, il va falloir revoir la politique d'implantation de l'établissement. Historiquement, on appliquait ce que l'on appelle la méthode Conrad Hilton, c'est-à-dire que les trois conditions essentielles pour la réussite d'un établissement, c'était l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ça, c'était la méthode Conrad Hilton, qui amène à choisir un top emplacement, parce que c'est là où on va avoir le flux le plus important, et en contrepartie, ça amène également des coûts structurels plus importants, puisque le loyer d'un emplacement numéro 1 est toujours plus élevé que le loyer d'un emplacement numéro 2. Dans le cadre d'une implantation, aujourd'hui, il ne faut pas réfléchir uniquement en fréquentation intra, c'est-à-dire à ceux qui viennent, aux consommateurs qui viennent dans l'établissement. Il faut réfléchir en multicanal, c'est-à-dire il faut s'adapter à ce que demande le client. Le client, historiquement, il venait manger à midi, il venait manger le soir, et puis c'est lui qui se déplaçait. Or, dans les mentalités, les choses évoluent. Aujourd'hui, le client, il veut que son établissement préféré soit disponible là où il en a envie et quand il en a envie. Donc, le développement multicanal, ça amène à pouvoir livrer le client à son domicile. Ça peut être alors par l'intermédiaire d'une plateforme ou directement. Il faut que le client soit en mesure de faire ses commandes sur Internet. Je vois encore beaucoup de restaurants aujourd'hui qui n'ont pas de site Internet. C'est juste une hérésie. Il faut absolument que chaque établissement ait un site Internet. Il faut que le client puisse commander sur son site Internet. Il faut qu'il soit présent sur les réseaux sociaux, il faut qu'il soit présent partout. Ça, c'est pour ceux qui sont en devenir, c'est-à-dire des restaurateurs en devenir, ceux qui vont s'installer. Pour ceux qui sont déjà installés, la plus grosse erreur qu'ils pourraient faire, à mon sens, c'est d'augmenter les prix sans réfléchir et sans monter en gamme. On peut augmenter un petit peu les prix à condition d'augmenter également en qualité. Mais il y a tellement de choses à voir avant d'augmenter les prix. On peut travailler sur le coût matière. Le coût matière, c'est historiquement, ça se situe entre 25 et 35%. Ça peut être un peu moins pour une crêperie qui peut être aux alentours de 20% et un peu plus pour un restaurant de fruits de mer qui va friser les 40% de coût matière. Donc, le coût des achats marchandises a augmenté avec l'inflation, mais ça ne veut pas dire qu'on doit systématiquement répercuter cette augmentation sur les prix de vente. D'abord parce qu'on va mettre le client en position d'arbitrage, c'est-à-dire qu'il va être arbitré, qu'on le veuille ou non, dans un ménage. Eh ben, il y a madame qui veut toujours pouvoir s'offrir sa petite robe ou sa petite paire de chaussures, ce qui est bien normal. Et puis, monsieur qui a peut-être besoin d'un article de bricolage. Et ils allaient Habituellement, ils allaient deux fois par mois ou trois fois par mois au restaurant. Mais si on augmente les prix, ils vont y aller une seule fois au lieu de deux fois ou trois fois. Il va falloir... Le budget, il n'est pas extensible. On sait qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat dans les ménages. Donc, il faut prendre ça en considération. Il faut donc travailler, il faut surveiller son coût matière. C'est la première chose. Surveiller son coût matière, ça veut dire que, en règle générale, dans un restaurant traditionnel, le coût matière ne doit pas excéder 30% du chiffre d'affaires hors taxe. Donc, il faut pouvoir négocier avec ses fournisseurs. Négocier avec ses fournisseurs, d'ailleurs, il existe aujourd'hui sur le marché des applications qui se sont spécialisées là-dedans. Je pense notamment à une application qui s'appelle Marge Plus, il suffit de rentrer le produit qu'on veut acheter et ils vont nous donner le prix de marché. On saura tout de suite si on est au-dessus ou en dessous du prix de marché. Il faut apprendre à négocier avec ses fournisseurs. Ça s'apprend. On n'est pas... Il faut mettre son ego de côté un petit peu en pensant, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils disent « Oh, moi, je suis un bon négociateur, je suis un fin négociateur. » On ne naît pas négociateur. La négociation, ça s'apprend. Il y a des formations pour ça. D'ailleurs, on en a une à disposition de nos clients s'ils le souhaitent. Donc, la négociation, ça s'apprend. Il y a une méthode à mettre en place et on le sait, les clients qui négocient payent en moyenne de 15 à 30% moins cher que ceux qui ne négocient pas. Il n'y a pas d'amitié dans le business. On peut avoir de bons rapports avec ses fournisseurs, on peut avoir un très bon rapport avec le commercial, mais le commercial, lui, il a des objectifs qui sont diamétralement opposés à celui du restaurateur. C'est-à-dire que le commercial, il est là pour faire du chiffre et défendre sa marge. Le restaurateur, il est là pour acheter le bon produit au meilleur prix possible. Donc, ce sont deux objectifs qui sont diamétralement opposés. Il faut donc trouver le juste milieu, et ça s'apprend. Donc ça, c'était pour l'histoire du coût matière. Bien entendu, le coût matière, ça veut dire qu'il faut le suivre quotidiennement. On peut mettre en place un journal d'achat, c'est-à-dire c'est deux chiffres à rentrer tous les jours sur Excel et qui nous donne tout de suite la position de notre ratio d'achat matière première. Donc ça, ce sont des choses faciles à suivre. Ensuite, il faut apprendre, bien entendu, à gérer le personnel parce que le personnel, tu le disais justement, Xavier, les charges de personnel ont augmenté parce que les salaires ont augmenté. Mais je vais plus loin que ça. Apprendre à gérer son personnel, c'est aussi apprendre à le garder. Et garder son personnel, ça ne se fait pas forcément avec le montant du salaire. Il y a un sondage qui est paru dernièrement, je ne sais plus sur quel institut, où le salaire arrivait en 19e position. Sur ce qui décide le personnel à rester dans une entreprise. Ce qu'on sait, c'est que le turnover coûte très cher. On a fait un podcast spécifique là-dessus. Le turnover coûte très cher quand on perd ce que l'on appelle un talent dans une entreprise. Et si on perd un talent, qu'est-ce qui nous garantit qu'on va pouvoir retrouver un talent équivalent qui soit aussi performant et qui nous permettent de satisfaire les clients. On a un exemple, je pense à Christophe, là, on a un exemple d'une entreprise où il y avait quelqu'un de très, très bon en cuisine qui est parti. Et bien, pour remplacer ce quelqu'un très, très bon en cuisine, ça pose un certain nombre de problèmes et ça ne plaît pas aux clients. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux apprendre à conserver son personnel plutôt que de subir un renouvellement permanent. Pour apprendre à garder son personnel, il faut bien entendu le respecter, c'est la première des choses, et puis être créatif au niveau des avantages sociaux, sans que ça coûte forcément très cher à une entreprise. Ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, concernant, bien entendu, l'augmentation des charges salariales, des charges d'électricité, pardon, électricité, gaz, etc., eh bien, il faut apprendre à pratiquer les éco-gestes. Les éco-gestes, je vais vous donner un exemple simple. Mettre une casserole d'eau à bouillir en cuisine, si on met un couvercle dessus, c'est 30% d'économie d'énergie. 30% d'économie d'énergie simplement en mettant un couvercle sur une casserole. c'est faire passer aux cuisiniers la mauvaise habitude qu'ils ont généralement d'arriver le matin, d'allumer le gaz, même s'il n'y a rien à mettre dessus. On allume le gaz, voilà, comme ça, c'est, les veilleuses sont allumées, si j'ai besoin, j'allume. Ben non, ça ne sert à rien, une veilleuse allumée, ça consomme du gaz. C'est apprendre, par exemple, à couper tous les instruments qui sont en veille, qui consomment, c'est à peu près 10% d'économie d'énergie. Hein. Il suffit de mettre une rallonge avec un bouton et puis on coupe au bouton plutôt que de laisser l'appareil en veille. C'est toutes ces petites choses-là. J'ai fait un test dans une entreprise où tous les soirs, je leur faisais éteindre la box Internet. Eh bien, la box Internet, ça paraît peu de choses, mais la box Internet, même quand elle consomme la nuit, mais est-ce qu'on s'en sert la nuit ? Si on ne s'en sert pas la nuit, on peut l'éteindre. Et ça va vous occasionner quelques euros d'économie par an, mais quelques euros ici, quelques euros là, et au final, on va s'en sortir. Et ensuite, pour...
Ou alors on fait l'inverse. Ou alors on fait l'inverse, Didier.
Oui.
On travaille la nuit.
Ah, aussi.
C'est-à-dire, on va, voilà, on va faire de la production la nuit, quand on n'est pas là, par le sous-vide, basse température.
Bien sûr.
Et effectivement, on aura peut-être des tarifs beaucoup moins importants. Et la journée, bah, ça sera juste de la remise en température. Donc, on fera une économie substantielle.
Oui, oui, tu as tout à fait raison, bien sûr. Après, il y a effectivement la modification des méthodes de production. Et modifier les méthodes de production, c'est aussi choisir d'aller vers l'économie. Le dernier point, et qui rejoint ce que tu disais, Christophe, c'est la gestion des déchets. La gestion des pertes, on le sait, statistiquement, 30% de ce qui est produit finit à la poubelle. Tiens, vous faites cuire des frites, 30% des frites qui sont cuites finissent à la poubelle. Vous faites, je veux dire, il y a un test facile à faire, c'est tous les jours, après le service, de tester ce qui revient, de peser ce qui revient des tables en déchets alimentaires. Et vous verrez que vous serez extrêmement surpris. Il y a 30% de choses qu'on produit qui finissent à la poubelle. Si on supprime ces pertes, on améliore considérablement notre coût matière. Voilà, ce sont des choses simples à faire, des choses de bon sens sur lesquelles il faut réfléchir. Bien entendu, je comprends bien que le restaurateur qui a, comme on dit, la tête dans le guidon en permanence, il n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Et c'est pour ça qu'il existe des cabinets comme nous qui sommes là pour réfléchir à sa place et l'aider. C'est parce que je voudrais en venir également au principe que surtout ne pas rester seul. Ne pas rester seul confronté à ses difficultés. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec un cabinet de conseil. Il y a nous, mais il y en a d'autres. Hein. Un cabinet de conseil quel qu'il soit qui va les aider à passer ce cap difficile et à transformer l'essai pour savoir quoi faire pour combattre cette inflation, quoi faire pour combattre cette dispersion du tarif, quoi faire pour éviter de trop augmenter les prix. Si on est amené à augmenter les prix, de toute façon, ça ne peut se faire qu'en augmentant la qualité. Sinon, on va au-devant d'un échec certain. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Christophe, tu avais des choses à ajouter peut-être ?
Oui, grosso modo, allez, j'allais dire, faire appel à un cabinet, c'est déjà un petit peu... Allez, j'ai donné un exemple cette semaine à quelqu'un qui me dit « Oui, mais bon, si je fais appel à un cabinet, ça me coûte de l'argent, etc. » Et puis je lui dis, c'est un petit peu comme si vous preniez, si on faisait une comparaison avec le foot, c'est comme si en faisant appel à un cabinet, vous auriez Mbappé dans votre équipe.
Ouais.
D'un seul coup, vous faites venir Mbappé et il va montrer aux autres comment on marque, j'allais dire, il va dynamiser l'équipe, etc. etc. Un cabinet, c'est ça aujourd'hui. C'est avoir quelqu'un de qualité qui connaît son métier, qui est extérieur à l'entreprise et qui va permettre justement d'apporter resserrer ces petits boulons qui vont permettre d'aller vers justement une solution, des solutions. Le cas échéant. Pour te rejoindre, c'est effectivement les circuits courts. Vraiment les circuits courts aujourd'hui. Moi, je suis dans une entreprise actuellement. Je suis allé voir les fournisseurs vraiment les plus proches. J'ai pas hésité à me dire tant pis. Avant, on avait 2-3 fournisseurs. C'est super, ils viennent, ils nous livrent, c'est du confort. Aujourd'hui, on va peut-être en avoir 12. Voilà.
Oui.
La seule différence, c'est que chacun va m'apporter un prix très intéressant. Ensuite, le petit truc, c'est que je négocie à l'année. C'est-à-dire, je dis pas, tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de 2 kilos de pommes de terre. Ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon ratio et je vais dire, voilà, moi, j'ai tant de tonnes de pommes de terre à l'année. Que fait-on si je passe par vous? Que fait-on? Est-ce que vous pouvez me livrer? À quel prix? Et à partir de ce moment-là, c'est pas magique, hein, la personne se dit, OK, on va avoir ce volume. Donc, c'est à nous de faire un petit peu l'effort de chercher un peu les volumes qu'on va avoir à l'année et de les négocier à l'année et non pas à la journée, pas au mois, mais vraiment à l'année.
Bien sûr.
Moi, là, j'ai vraiment des prix très, très intéressants à partir du moment où je travaille comme ça. Donc, ça, c'est des petites solutions. Ensuite, on utilise bien sûr des fruits, des légumes de saison. Des tomates en plein hiver, c'est une hérésie, à moins d'avoir des conserves, mais c'est une hérésie. Et il faut arrêter, je pense, aujourd'hui, de vouloir quelque chose que l'on n'a pas dans l'instant T, parce que la nature fait qu'on ne l'a pas. Eh bien, on utilise ce que l'on a. Et je pense qu'on sera plus proche, comme tu le disais tout à l'heure, de ce côté un peu éco-citoyen, puisqu'on va avoir des prix qui sont beaucoup plus intéressants. Si on veut des poires au moment où il n'y a pas de poires, fatalement, le prix va être prohibitif. Et c'est normal, et c'est logique. Donc ça aussi, c'est très important. Et puis alors, effectivement, les économies dans le sens déchets. On valorise nos déchets et on peut les revaloriser. On les met en avant d'ailleurs. Moi, mes déchets, ça peut paraître bizarre, mais toutes les éplucheurs, etc., finissent dans mon assiette comme une belle déco, très agréable d'ailleurs à manger.
Bien sûr.
Ensuite, effectivement, on va travailler, alors là toujours, et c'est le principe de la cuisine sous vide basse température, c'est que si je travaille un poulpe, par exemple, ben, au lieu de perdre 30% de mon poulpe, qui va partir parce que, voilà, il va partir dans la cuisson, là, je vais garder pratiquement l'entièreté de mon poulpe. Donc, j'ai bien un produit qui est beaucoup plus important. Si je fais des frites, si on revient sur les frites, on va donner des portions beaucoup moins importantes en expliquant au client qu'il va manger maintenant fonction de son appétit. Mais il est hors de question de décider que tout le monde va avoir 150 grammes ou 200 grammes de frites parce que finalement, ça n'a aucun sens. Mon épouse va peut-être en manger 20 grammes, 30 grammes et moi, je vais peut-être en manger 100 grammes. Donc, il faut vraiment qu'on colle au plus près du client et qu'on fasse cette économie au lieu de se dire « Allez, j'en mets plein l'assiette. » Moi, je préfère en rajouter. Dire aux gens « Voilà, je vous mets une purée, je vous mets ceci, je vous mets cela. » Et puis, si vous en voulez, vous me demandez, je vais en rajouter.
Bien sûr.
Bien sûr, c'est pris en compte dans mon calcul. À partir de ce moment-là, c'est incroyable. On gagne de l'argent. Et on s'aperçoit que les gens ne sont pas tous des chancres. Hein. D'accord ? Effectivement, un prix, rapport qualité-prix, toujours pareil. Parce que là, on s'est aperçu dans certains restaurants, on a monté le prix, le plat, 28 euros. Alors avant, ils étaient à 19, ils sont passés à 28 euros.
Ouais.
Et là ça freine. Parce que alors là, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de dessert, c'est limite si on va prendre un café, et ben, on ne revient pas, quoi. Parce ouais. que c'est. Surtout à midi, ce n'est pas possible. Quand j'en ai parlé au patron, il me dit « Non, mais ça va être comme ça parce que moi, je ne vais pas m'embêter. J'augmente, point barre. » Je pense que dans quelques mois, je devrais le revoir parce qu'à mon avis, il va être mis à mal et c'est logique et normal. Voilà. Donc, voilà quelques astuces que bah, on peut rajouter hein, pour compléter un peu ce que tu avais dit qui était déjà, je pense, ouais, très complet.
Est-ce qu'on peut aller encore un tout petit peu plus loin ? La dernière fois, on en a un petit peu évoqué dans le podcast précédent. Et moi, j'ai l'exemple d'un des restaurateurs qu'on a rencontré, qui est en Alsace, qui nous expliquait que ben, justement, grâce à la cuisson basse température sous vide, il fait toute sa production dans un de ses restaurants. Et dans les autres restaurants qu'il a, eh bien, il alimente ses autres restaurants qui est dont le service ou le service est fait uniquement par un commis qui est capable d'envoyer 50 couverts tout seul. Voilà. Ce qui permet, vous imaginez bien, très vite de faire des économies d'échelle. Est-ce que on peut expliquer un petit peu comment on peut peut-être revoir ces façons de travailler? On évoquait la fois d'avant peut-être travailler avec plusieurs restaurants. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette façon de faire?
Ben ça, je pense que Christophe va se faire un plaisir de, en tant que spécialiste, docteur S-cuisine sous vide.
Oui. Alors, c'est vrai que le sous vide, je suis encore étonné qu'il y ait encore des gens qui me disent, et là-dessus, je vais répondre à une question. Les gens me disent, oui, mais sous vide, tu vois, moi, je travaille des produits naturels, des produits frais. Le sous vide, on travaille exactement de la même manière avec des produits frais, des produits de qualité. Et quand je fais, bah, si ce n'est que des légumes, des fruits, je sais pas, de la viande, je pars sur une base de produits frais, extra frais. Sauf que la différence, c'est qu'au lieu de le mettre au four, et ben moi, je vais le mettre... Alors, je peux le mettre au four en basse température, bien évidemment, mais je peux le mettre aussi... avec un bocal, je vais le mettre dans un gastro, je vais le mettre dans un sachet sous vide, donc on va retirer l'air et je vais le mettre en cuisson. C'est la même chose, sauf que je vais avoir une cuisson très basse, plus lente, et les choses vont se faire plus lentement, je vais garder les saveurs. Bon, une fois qu'on a dit ça, je suis donc bien un cuisinier, n'en déplaise à certaines personnes. Et après, je rappelle que les frères Troisgros, Monsieur Alain Ducasse et bien d'autres utilisent les techniques de sous-vide basse température. Il y en a à 90-100% de leur cuisine, d'autres c'est 20-30% du travail qu'ils effectuent en cuisine. Mais aujourd'hui, on peut pas être 17, 27, 30 derrière dans les cuisines, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça coûte horriblement cher. Tout a explosé. Donc, il faut avoir cette technique. Cette technique, alors, elle est fort simple. Moi, je prends le cas de chaque fois où je vais travailler, c'est-à-dire qu'on va avoir une production qui va se faire sur 2-3 jours. Et cette production, c'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, pour un restaurant, là, j'ai fait des rabes de lapin farcis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait une trentaine de rabes de lapin pour un restaurant. J'ai fait une dizaine pour un autre, et ainsi de suite. Chacun a sa cuisson bien particulière, mais finalement, c'est la même. Et la seule chose qui va changer, c'est la sauce. Ce qui fait que je peux alimenter, alors que j'ai fait qu'une seule cuisson, d'accord ? J'ai pu alimenter 3, 4, 5 restaurants. Quand je travaille sur 2 jours, 2 jours et demi, je peux alimenter facilement en production 5 restaurants. Est-ce que vous voyez le travail? Une fois que j'ai cette production, c'est sous vide ou sous air, gaz.
Gaz neutre.
C'est gaz inerte, hein?
Oui.
Gaz neutre. Donc je vais pouvoir garder. Excusez-moi, j'ai perdu mon micro. Je vais pouvoir donc garder ce produit pendant 21 jours, voire pour certaines recettes, 30 jours. Donc, dès que ça, je l'envoie dans un restaurant, c'est parti de du restaurant, on va dire, ou du lieu de préparation, je l'envoie au restaurant, la mise en, j'allais dire, à l'envoi, on va dire le montage, peut se faire effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Xavier, bah par n'importe qui, puisque en fait tout est fait, il suffit juste de respecter la température de régénération du produit et ensuite c'est un petit montage. Ça s'apprend, c'est très simple, ça s'apprend. Effectivement, dans la recette, il y aura une photo et il suffira simplement de suivre la photo. Donc n'importe qui pourra le faire. Je ne sais pas si vous imaginez en fait le confort. La sécurité alimentaire, parce que là, on est sur des températures qui sont avec de la pasteurisation, on a des produits de haute qualité, on n'a pas perdu justement 30-40% de la masse, du volume. On a gardé l'intégrité du produit. Toutes les qualités requise pour cette technique aujourd'hui. Voilà. J'espère avoir été assez clair. On peut aller plus loin, hein, mais après, ça demande du temps.
Non, mais ce que ça veut dire, c'est que justement, on encourage les restaurateurs à réimaginer l'organisation complète de leur restaurant et de leur façon de fonctionner. Et nous, effectivement, c'est grâce à ça, grâce à ces techniques-là, qu'on a les meilleurs résultats. Parce que ce que tu disais, Didier, tout à l'heure, effectivement, il faut le faire. Mais quand on bascule une production traditionnelle vers une production grâce à ces nouvelles techniques, ben là, les ratios, l'organisation, toute l'optimisation, elle est sans commune mesure. Donc, on a énormément de résultats grâce à ça. Donc, on encourage, nous, les restaurateurs, aujourd'hui, à tout réorganiser et à comprendre leur fonctionnement d'un point de vue global.
Ouais, c'est vrai que ça peut faire peur. Hein. On entend, oui. Ça fait 25 ans, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Oui, c'est oui, ça. Mais il n'est jamais trop tard pour évoluer, pour avancer, changer. La preuve, on est en train de faire des podcasts. Si on m'avait dit il y a quelques années que j'en ferais, je crois que j'aurais été le premier à dire « bah non, c'est pas possible, j'en ferais pas ». Aujourd'hui, ça se fait. Aujourd'hui, toute la technologie est arrivée. Ça fait des années que ça arrive. On a les réseaux sociaux. Tu le disais tout à l'heure, Didier. Moi, je suis encore étonné de voir des restaurateurs qui me disent « ah ben non, même pire, on les trouve pas ». D'ailleurs, tu sais bien de qui je parle, Didier. On trouvait pas la personne sur les cartes. Elle n'était pas indiquée. Donc, quand nous, on tapait l'adresse et le lieu, il n'existe pas. Et quand j'en parle au responsable, il me dit « oui, on n'a pas opté pour ça ». Mais c'est prioritaire. Oui. Comment vous n'y avez pas pensé ?
Et c'est surtout gratuit.
Mais oui, et en plus, c'est gratuit.
C'est de la communication totalement gratuite.
Oui, et puis moi je lui ai rajouté, je lui ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas un forum avec les équipes ? Alors, j'en ai parlé, dans cette entreprise, il y a énormément de jeunes femmes et de femmes et qui étaient super contentes. Elles ont dit, ouais, c'est génial, on va pouvoir faire des forums entre nous, on va pouvoir se passer les recettes, on va pouvoir communiquer sur des petites difficultés qu'on a. Et du coup, ça a créé une dynamique. Donc, et je dis, mais c'est ça, en fait, les réseaux sociaux, etc., c'est ça. Mmh. Et puis, chacun va renvoyer à tout son groupe, toute sa filiation, et de fil en aiguille, on va se retrouver avec énormément de monde qui vont avoir accès à ce lieu et à cette restauration. Donc, pourquoi sans s'en priver ? C'est vraiment actuel et il faut s'en servir. Et en plus, c'est gratuit.
Et j'ajouterais que c'est également un vecteur de fidélisation du personnel, un vecteur de reconnaissance du personnel. Il y a Georges Blanc, le cuisinier 3 étoiles, en ce moment, il publie sur les réseaux sociaux les photos de toutes ses équipes en expliquant ce qu'ils font, comment ils font et tout ça. Eh bien, le personnel, il se sent reconnu quand on le met en avant. Il y a Éric Guérin qui fait la même chose d'ailleurs. Le personnel se sent reconnu quand il est mis en avant comme ça. Il dit ah ben, je participe à quelque chose. On en revient toujours à ce que l'on appelle la marque entreprise. C'est quelle est l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il faut que le personnel puisse s'identifier à une entreprise. Et pour ça, il faut effectivement développer une marque entreprise. Donc les réseaux sociaux, ça a beaucoup d'avantages. Après, je dirais qu'il faut faire attention à une chose. C'est pas un hasard si la plupart des étoilés Michelin refusent que les clients prennent en photo les plats qu'ils sortent. Parce que il faut être très vigilant sur la qualité des photos qu'on publie. Et analyser le taux de rebond, ça c'est une démarche, ça fait partie des KPI marketing, mais ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire voir la photo à quelqu'un d'autre que nous. Parce que le taux de rebond, ce qu'on appelle le taux de rebond en marketing, c'est le nombre de gens qui viennent sur le site, qui cliquent sur le lien pour aller plus loin. Et certaines photos, moi je traduis par « je suis venu, j'ai vomi, je suis reparti ». Ça paraît un peu trivial comme ça. Mais c'est la réalité. Donc, il faut être très vigilant sur les photos qu'on publie. Il faut qu'elles donnent vraiment envie. Moi, je vois passer des photos certaines fois. J'ai beau m'approcher, essayer d'agrandir l'image, j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Et quand une fois que j'ai réussi à déterminer à peu près ce qu'il y a dans l'assiette, ben, j'ai pas envie de le manger. Donc,
ouais.
Voilà.
Oui, alors il y a un exemple que je vais vous donner aussi, qui est alors un petit peu différent, c'est que une photo a été très bien prise, et puis l'assiette, en fait, la personne a mis l'assiette, alors effectivement, c'est vrai qu'il y a le produit, et il y a très peu de choses dessus, la sauce, puis très très peu de choses. Et la personne a pris cette photo, l'a mis, et il y a eu des gens qui ont dit, oui, mais alors là, il n'y a rien à manger, etc. Et pour cause. Parce que c'était à côté, c'est-à-dire qu'il y avait cette assiette, et puis à côté, il y avait un complément. Il y avait donc des légumes qui étaient cuisinés dans un petit bol qui était à côté. Et la personne, en fait, quand elle a pris l'assiette, elle a oublié de prendre donc le complément. Et effectivement, bah, les gens s'en sont donnés à cœur joie. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut faire attention, on prend l'ensemble des choses, on fait de belles photos, voilà. Et surtout, on ne me prend pas moi pour faire des photos. J'ai essayé, je n'y arrive pas, sous toutes les coutures. J'ai tout pris en haut, en bas, sur les côtés. La photo ne m'aime pas. Voilà.
Ouais. Non, mais c'est un vrai métier. Donc,
c'est un métier.
Ouais,
c'est...
En résumé, je dirais qu'il faut apprendre à suivre son coût matière au quotidien. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, avec l'aide d'un journal d'achat, par exemple. Il faut apprendre à gérer son personnel correctement. Il faut savoir que dans une entreprise, par exemple, la logique veut que l'équipe de personnel au fixe corresponde à la période d'activité la plus faible de l'établissement. C'est-à-dire que si le lundi, on a 20 couverts et que le samedi, on a 80 couverts, eh bien, je schématise parce que ça ne se mesure pas sur une semaine, mais plutôt sur un mois, on doit avoir l'équipe de personnel au fixe qui correspond à la période d'activité la plus faible. Et le reste, on complète soit avec des extras, soit avec des saisonniers, soit avec des CDD, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, surtout, il faut varier les canaux de vente. Il faut aller dans le multicanalisme. Il faut faire de la livraison via une plateforme de livraison ou directement. Il faut faire du click and collect. Il faut faire du drive. Il faut... développer, on peut aussi développer les activités à l'image un peu de ce que fait le bureau maintenant, la chaîne au bureau, qui sont ouverts, presque toute la journée, ils font les petits déjeuners le matin, ils font le déjeuner le midi, ils font du brunch l'après-midi, ils font le dîner du soir, on s'adapte aujourd'hui aux demandes de la clientèle. Pour beaucoup d'entreprises, la réussite passera par la diversification des canaux de chiffre d'affaires, des canaux de production.
Oui, oui. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, mais s'il vous plaît, là, j'appelle vraiment tous les cuisiniers qui ont à peu près mon âge, hein, après 50 ans, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez et que les chefs comprennent, parce que qu'il faut arrêter de penser que parce qu'on sait faire de la cuisine, de la bonne cuisine, mais le problème, c'est si on fait de la bonne cuisine, mais que la marge, il n'y en a pas,
ça sert à rien.
Je peux faire un million d'euros. À la fin, il ne me restera rien. Donc, j'aurai produit 1 million d'euros, mais finalement, à la fin, je n'ai rien. Donc, aujourd'hui, et c'est valable aussi pour les patrons, pour les gens qui... Il faut bien faire la différence entre quelqu'un qui cuisine bien et quelqu'un qui est un vrai responsable, quelqu'un qui est capable de manager, quelqu'un qui est capable de, justement, et c'est bien la problématique que nous rencontrons, nous, quand nous arrivons, parce que quand on fait appel à nous, on nous donne le bébé, on nous dit, voilà, il est plus productif. Voilà. Là, on fait 10 000, 12 000, alors qu'avant, on faisait 50 000 et qu'on sait que ce restaurant-là peut faire 75 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, on dit, OK, bon, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on s'aperçoit que, bah oui, on a des plats, on a tout ça, tout est en place, mais qu'en fait, on a un COEF de... Enfin, on a 2,5% que j'ai eu là sur un plat. 2,5%. Est-ce que la personne se rend compte à quel point c'est ridicule. J'ai même été plus loin. Il y a quelqu'un qui vend, alors ça, c'est des barquettes, à 7 euros la barquette, donc avec du riz, c'est du curry, comme on appelle à La Réunion. 7 euros la barquette, il achète tout fait 10,45 euros. Je demande au chef, il me dit, je suis un bon cuisinier. Ok ? Alors déjà, si tu es un bon cuisinier, pourquoi tu le fais faire ? Pourquoi tu ne le fais pas ? Et ensuite, pourquoi tu l'achètes à 10,45 euros pour le revendre 7 euros ? Et d'un seul coup, je vois dans ses yeux, je viens de comprendre.
Ah oui ?
Sauf que là, c'est dramatique. Et le problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, attention, on veut recruter des gens, il faut savoir. Moi, je préfère un bon second. Un bon second. Ou quelqu'un qui me dise, voilà, moi, je ne sais pas gérer. Donc, je ne veux pas être chef. Par contre, moi, je vais faire des repas. Mais il faut me calculer les marges. Il faut me calculer, voilà. Et c'est tout. Et à partir de ce moment-là, on mettra la personne qui sera, elle, par contre, plus un gestionnaire, qui sera un peu plus… Et à partir de ce moment-là, ça ira. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. C'est-à-dire que moi… Des fois, je suis, enfin, j'en rigole parce qu'on peut rien faire d'autre. Mais quand le gars me dit, ah, moi, j'ai 35 ans de boîte, c'est pas à moi qu'on apprend à faire la cuisine. Ah, ben, la cuisine, non. C'est tout le reste, en fait. C'est, d'accord? Et peut-être même le savoir-être. Donc, et aujourd'hui, je trouve que c'est récurrent. Moi, chaque fois que j'arrive, j'ai ça. Je sais faire de la cuisine. Oui, mais un chef, c'est pas que ça.
Ben, non.
D'accord? C'est 20-30% du travail qu'il fait. Tout le reste, c'est de la gestion. Et effectivement, comme tu le dis, Didier, il faut absolument être formé. Et nous formons ces gens-là. C'est comme je leur dis, mais il est jamais trop tard. Et vous pouvez toujours vous former si vous le désirez. Et là, du coup, vous serez un chef complet, tout simplement. Donc, la formation, ça sert pas simplement. C'est pas quelque chose qui est du superflu. Tous les jours, moi j'entends des fois, non mais la formation, tu comprends Christophe, non mais moi j'ai pas de sous à mettre là-dedans. Ah bon? Donc tu préfères perdre de l'argent? Faites de la formation, je vous assure. Dans tout métier, ceux qui réussissent sont les gens qui se forment tout le temps.
En permanence.
Ça c'est vraiment quelque chose qui est, voilà. Donc, voilà, je voulais intervenir là-dessus parce que c'est important avec ce qu'on vit chaque semaine. Je me dis, tiens, je vais avoir des podcasts. Il faut absolument que je leur dise, bon sang, réveillez-vous. Il faut se réveiller. Je sais qu'on a la tête dans le guidon, on bosse, mais ça n'empêche qu'il faut mettre les bonnes personnes au bon poste et sans doute peut-être former des jeunes qui arrivent, qui sont peut-être pas les meilleurs en cuisine, mais en tous les cas, qui peuvent être là apte à pouvoir comprendre et justement à faire ce que tu disais, Didier, dans cette gestion. Voilà.
Exactement. Je partage complètement.
ouais, c'est génial. Bah, j'espère qu'on aura motivé bon nombre de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, pour certains. Voilà, bah, écoutez, on se dit à la prochaine fois, messieurs, ou vous avez peut-être quelque chose encore à rajouter, je ne sais pas.
Non, c'est bon. On pourrait en parler pendant des heures, mais.
Bah c'est ça, oui. Mais.
Ouais. Il faut bien se
limiter. Non, faut en laisser.
Voilà.
Oui, voilà.
Exactement.
Ça marche. Bon, ben bah, écoutez, je vous dis à bientôt.
À bientôt et au revoir.
Merci.
Au revoir à tous.
Au revoir.